Donc, je suis revenu, j'ai pas pris sur moi pour gagner ma responsabilité, comprendre ce que c'était mettre un cadre,
Ouais.
pas s'enfermer, c'est juste cadrer. Tout plein de choses qui m'ont fait avancer pendant ces quelques années. Et au final, d'arrêter de vouloir les choses, mais juste de travailler sur moi. C'est ça que je dis, de travailler sur l'intérieur pour que ça jaillisse à l'extérieur. Et concrètement, mon laboratoire, c'est mon bureau. Et maintenant, j'ai une équipe. On est presque, on est six et demi. Et j'ai une équipe qui est dévouée, qui travaille, qui donne tout ce qu'ils ont. Ils sont engagés. Enfin, tout ce que j'ai essayé de faire sur le papier avant, qui n'a pas fonctionné, en
Ouais.
lâchant, je me suis promis d'arrêter de parler de mes visions, de mes volontés, de mes rêves, pour voir ce qui se passait, et ça se passe. J'adore ça.
Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à deux mains? Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'écho futuriste, et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Eric Moller de Oval Partner. Il va se présenter tout à l'heure, Eric. Et en attendant, je veux juste vous partager pourquoi j'ai choisi de l'inviter. Parce que bon, on s'est contacté sur LinkedIn, je sais plus qui voilà a fait le premier pas, mais j'ai vu sa description de profil sur LinkedIn et il y a trois phrases qui m'ont interpellée, touchée et je me suis dit il faut que j'interviewe Eric. Donc je vais vous lire en fait ce que je viens ce qui m'a touchée en fait. Donc voilà. Alors c'était inspiré par la nécessité de vivre autrement la dimension humaine dans l'entreprise. J'ai la conviction que de mettre plus d'humanité au cœur de nos métiers est la clé vers plus de sens. Cela se traduit par une transformation intérieure qui rejaillit sur l'extérieur, gouvernance à autorité partagée, écoute et accompagnement plutôt qu'autorité. Anime ce processus privilégiant la durabilité dans les réalisations techniques et les relations humaines. Alors évidemment, j'ai kiffé, vraiment, j'étais allumée de partout quand j'ai lu ça et j'ai contacté Eric et je lui ai dit, est-ce que tu veux faire un podcast? Bienvenue Eric.
Merci Valérie, merci de me donner une opportunité de m'exprimer. Bon, ça fait drôle hein, d'écouter des phrases comme ça. Moi, elles me parlent plus quand je les lis, mais c'est vrai que elles ont du sens, elles ont de la structure hein, parce qu'elles sortent du cœur. Simplement,
Ouais.
mon histoire. Enfin, je suis pas très copain avec les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, il manque un peu d'esprit. Et de la vraie relation. C'est pour ça que j'ai essayé de retraduire avec mes mots c'est ce que je ressens, c'est pourquoi j'ai fait où j'en suis. Voilà, c'est quelques phrases.
Tu veux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, bah, ce qui t'a amené en fait à ces phrases-là, puis quelle est ton activité? Parce que moi, j'ai juste donné la raison sociale de l'entreprise, mais je te laisse
OK.
raconter ce que tu as envie.
D'accord. Comme ça. Oval et Partenaire, c'est un bureau d'ingénieurs en génie civil que j'ai créé en partant de zéro il y a 7 ans. Avant ça, j'ai eu une carrière professionnelle. J'étais à Lausanne, donc quelques années, j'ai repris un bureau existant avec un associé. Et au bout de quelques années, nous nous sommes dissociés et c'est là que je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose. De travailler différemment, de faire quelque chose. J'ai envie de sauver le monde. Voilà, c'est ma première utopie. Et puis, de partir de là, j'avais quelques envies, surtout des rêves, comme travailler de façon plus horizontale, diminuer l'administratif, de remettre du sens, en fait, dans ce qu'on travaille. Donc, un bureau d'ingénieur, c'est très pragmatique, c'est très droit et calculé. Donc, à partir de là, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. 7 ans plus tard, donc aujourd'hui, fort de cette expérience, je peux dire non, j'ai pas réussi à sauver le monde. Et il y a quelques années, je me suis dit, plutôt que d'essayer de sauver le monde, je vais essayer de travailler sur moi pour voir ce qui va advenir. Donc, je vais profiter de partager cette expérience aujourd'hui, parce que je pense que ça vaut la peine.
C'est clair,
Et
ouais.
puis, après, c'est vrai qu'il y a un truc qui me traverse l'esprit, c'est que j'ai eu un moteur qui m'a fait avancer depuis mon enfance jusqu'à ce que j'ai à peu près 40 ans, je dirais que c'était un driver, c'était la recherche de reconnaissance. Donc ce driver, il m'a fait avancer, il m'a fait arriver où est-ce que je suis arrivé. J'ai été le premier partout, enfin, j'ai vraiment gravi des échelons importants pour moi à l'époque. Jusqu'au jour, j'ai fait un travail sur moi, sur la recherche de mes valeurs. Donc, c'est un travail entre 40 et 50 ans, donc c'est pas très tôt. Je dirais à tous les gens qui ont la chance de faire travail avant, c'est génial. Et puis, arrivé à ce moment-là, ben, finalement, je me suis rendu compte que driver, connaissance que je recherchais, toute la gratitude que je peux donner, c'est que j'en ai plus besoin. En tout cas, en théorie, et puis j'ai remarqué que c'était plutôt maintenant la recherche de sens, de plaisir, de liberté quelque part, de faire ce que j'ai envie de faire, qui m'a aidé, qui m'a poussé à recommencer à zéro, un bureau, donc dans le même domaine d'activité que je faisais avant, mais et en essayant de faire les choses différemment. Loin d'être facile. Donc j'ai commencé, enfin j'ai gentiment remis le bleu de travail, remis les mains dans le cambouis. J'avais une envie, c'était d'augmenter très rapidement. Donc, pour faire de l'intelligence collective. Enfin, j'avais des trucs qui étaient bien, bien formatés, bien ancrés, enfin, avec beaucoup de volonté. Donc, j'ai, en 5 ans, je suis monté à 10 personnes. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Donc, la grande prise de conscience de tout ça, c'est que quand il y a trop de volonté, trop de vouloir les choses, c'est rigolo, c'est le paradoxe, c'est de tellement vouloir les choses que j'ai rendu les situations, l'envie, ce moteur de plus en plus cadré, de plus en plus crispant, autant pour moi que pour mes collaborateurs, tout ça sous le manteau de la liberté. Donc c'est marrant de vouloir creux, de vouloir, c'est pas mon mode, de vouloir créer de la liberté, vouloir créer de la coopération, à créer un enfermement. Et puis ben voilà, j'ai tapé contre la rambarde. Je n'ai pas tapé dans le mur, j'ai tapé contre la rambarde. Je suis revenu au centre du terrain. Donc ça m'a, j'ai mis en place une façon de travailler sociocratique. Holacratie. J'ai
Holacratie, ouais.
transformé holacratie, j'ai transformé ça, j'ai pris ce qui me plaisait, donc j'en ai fait une ovalocratie pour finalement construire une espèce d'usine à la ingénieur, très cadré, très, très structurant et très emprisonnant. Donc, ça, c'était ma grosse prise de conscience, donc j'ai dû réduire la voile, revenir à quelque chose de plus simple. Et ma grande. Mon grand saut, ça a été de dire, mais arrête de vouloir la liberté. J'ai pris conscience que en voulant faire de l'organisation horizontale, c'est que j'avais un problème avec la responsabilité. Je disais, mais voilà, tout le monde prend la responsabilité à part moi, comme ça on est tous à l'horizontale. C'est pas du tout ça. Donc je suis revenu, j'ai fait appel sur moi pour gagner ma responsabilité, comprendre ce que c'était de mettre un cadre. À s'enfermer, c'est juste cadré. Tout plein de choses qui m'ont fait avancer pendant ces quelques années. Et au final, d'arrêter de vouloir les choses, mais juste de travailler sur moi. C'est ça que je dis, de travailler sur l'intérieur pour que ça jaillisse à l'extérieur. Et concrètement, mon laboratoire, c'est mon bureau. Et maintenant, j'ai une équipe. On est presque, on est six et demi. Et j'ai une équipe qui est dévouée, qui travaille, qui donne tout ce qu'ils ont. Ils sont engagés. Enfin, tout ce que j'ai essayé de faire sur le papier avant, qui n'a pas fonctionné, en lâchant, je me suis promis d'arrêter de parler de mes visions, de mes volontés, de mes rêves, pour voir ce qui se passait, et ça se passe. J'adore ça. Ça, c'est le paradoxe, ou c'est le, il y a plein de théories, hein, de lâcher pour que ça aille. Mais vraiment, mon laboratoire m'a montré que ce que je travaille sur moi, ben, c'est l'expérience.
C'est génial. Alors, déjà, j'ai deux questions pour toi. Alors, tu dis que tu as tapé dans la rambarde. C'était quoi la rambarde? Je suis curieuse. Et puis, l'autre question, comment tu as géré l'inconfort, en fait, de lâcher, tu vois, la volonté?
Ben, je pense que c'est suite à la prise de conscience. La volonté, elle se lâche pas toute seule, mais finalement, quand on voit qu'on va pas vraiment dans la bonne direction, qu'il faut changer quelque chose, si ouais, mais tu as arrêté d'être aussi volontaire. J'ai arrêté d'être dans l'attente, de vouloir les choses pour ensuite être frustré, être déçu, et finalement, ça fonctionne pas comme ça. Donc, c'est un moment un peu plus difficile. Bah, le fait après de prendre sa responsabilité d'entrepreneur, de patron, de chef d'entreprise, de devoir remanier son bureau, de devoir malheureusement ou heureusement pour chacune des deux parties se séparer, avec du recul, c'est heureusement pour les deux parties.
Ouais.
Je le vois. Puis finalement, moi j'avais des théories quand j'engage quelqu'un, quand j'engagerai quelqu'un, c'est tout en lui-même. C'est-à-dire que je parle avec le cœur, je suis authentique. Toutes les personnes qui sont dans mon bureau, qui ont plusieurs années d'expérience, me disent, mais toutes, que j'ai jamais fait autre chose que ce que j'ai dit au départ lors du premier entretien d'embauche.
Wow.
Ça, c'est bingo, yes.
Et tu leur dis quoi alors? C'est quoi, tu racontes quoi dans ce premier entretien d'embauche, quoi, qui est vraiment toi, sincère, issu de ton cœur?
Bah, un peu l'historique, c'est un peu ce que je suis en train d'expliquer là, en fait, okay. Je me rends compte.
Ouais.
Je vais engager personne, en fait.
Oui, non, mais c'est juste pour, tu vois, pour comprendre, en fait. Non.
Je rigole.
Mais peut-être un jour, tu pourras leur montrer cette vidéo si tu veux continuer de grandir, hein. Ou pas.
Non, mais je pense de parler du cœur et puis finalement d'expliquer le fonctionnement du bureau que j'ai créé, dans lequel je travaille. Et quelque part, je vis le bureau ovale comme une entité à part entière. J'ai aussi un travail de dissociation que j'ai dû faire, c'est que mes valeurs sont pas forcément les valeurs du bureau.
Ouais.
Elles l'ont été pendant des années. Donc, Oval, c'est un compagnon qui est avec moi, qui m'offre plein de bonheur, qui m'offre plein de situations challenging. Et je pense que de se dissocier, c'est aussi plus facile d'expliquer, voilà, d'arriver, l'environnement est tel qu'il est là. Le patron, c'est moi, parce que c'est ma fonction. Il y a des ingénieurs, il y a des chefs de projet. Ils ont chacun leur rôle et leur fonction. Et finalement, aussi la spécificité dans le bureau ovale, c'est que les ingénieurs comme les dessinateurs travaillent de façon horizontale.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de bureaux que je connais et tout ça, parce qu'il y a une question de formation, une question de connaissance. Et puis après, moi, je dis, mais il y a aussi une question de fonction. On ne fait pas le même travail, on est complémentaires. Donc, voilà. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Les gens qui sont actuellement dans le bureau, ça fonctionne à merveille et de mieux en mieux. Et c'est un travail pour chacun aussi. Et c'est chaque fois qu'il y a une personne nouvelle qui arrive, ben ça change un peu l'osmose. Et c'est intéressant. Parce que c'est comme si on développait naturellement c'est comme un organisme, en fait, qui évolue avec le temps. C'est très naturel. Dans un bureau où tout est cartésien, calculé et tout ça, j'adore. J'adore. C'est comme...
Tu vois, enfin, excuse, mais oui, c'est hyper rationnel, cartésien, et tant mieux, voilà. Parce que votre métier, il est hyper précieux, c'est hyper important. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, quoi, tu vois. Enfin, c'est grave, les conséquences, s'il y a des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de temps en temps, mais je pense que vous les voyez avant qu'il y ait les conséquences. Mais vous êtes quand même des êtres humains. Et dans l'être humain, ce qui compose une partie de l'être humain, il n'y a pas que le rationnel, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça, en fait, qui change la dynamique, l'osmose, parce que, voilà, il y a toute la chimie en chacun, les émotions, etc., quoi, qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est très organique, en fait.
Oui, oui. Oui, puisque tu es organique, humain, mélangé, avec des formations. Chaque personne a une formation différente. Une formation, un vécu, un environnement, une histoire de vie. Finalement, que tout ça arrive à s'imbriquer, ça donne. C'est vraiment un autre slogan, c'est humain et ingénieux. Donc,
C'est beau. Et puis tu vois, enfin, j'aime bien parce que de l'ingénieux. Alors, ouais, je sens. Après, je sais pas l'étymologie de ingénieur et voilà, mais donc ingénieux, il y a le côté un qui me vient de intelligence, tu vois, mais génie aussi. Et puis pour moi, le côté génie. C'est pas que rationnel, en fait, c'est tout le reste, en fait, qui nous constitue, nous, humains, tu vois, notre sensibilité, ben oui, les émotions, l'intuition, l'instinct, toutes ces sensations qu'on a qui sont impalpables, enfin voilà, et c'est beau, ce ingénieux.
C'est magnifique. Merci, merci. Mais je pense que on se sent bien dans un environnement de quelque chose qui est aligné, on peut tourner, transformer tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avec des mots. Si on trouve les bons mots, c'est une joie infinie.
Ouais.
Après, concrètement, sur le chantier, ou comme je dis, dans le laboratoire, c'est où on travaille, on met les mains vraiment dans la matière. Notre métier, il est juste ordinaire. On part de quelque chose de théorique. On crée une conception, on conçoit quelque chose. Pour ensuite le permettre de prendre vie dans la matière. Ok, c'est une matière qui est statique, qui ne devrait pas bouger, qui ne bougera pas, mais c'est un art, c'est splendide. Après, moi, je le vois comme ça, et puis là, ça dans ma fonction, ça permet vraiment de mettre cette étincelle, ce sens dans ce qu'on fait. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport au challenge qu'on doit relever. Challenge de la difficulté du travail, de la direction dans laquelle on prend, qui est pas tout le temps la meilleure, dans la course au rendement, etc., etc. Moi, je suis sûr qu'en travaillant sur cet esprit, on essaye d'insuffler autant dans l'humain, dans les relations, dans la qualité qu'on a pour développer un projet que dans les matériaux. Notre art, c'est de mettre meilleurs matériaux au meilleur endroit. Donc, on mixe tout ça. Et puis, plus on arrivera à mettre cet esprit dans ce qu'on fait, dans les choses qu'on fait, dans les relations qu'on a, c'est ça qui va faire la différence. J'en suis pas convaincu, j'en sais rien du tout, mais moi, ça me plaît énormément. Donc, ça suffit. Pour moi, ça me suffit.
Ouais, mais enfin, tu vois, moi, ça me paraît super sensé, aligné, et j'aurais envie de dire, t'as l'air convaincu, en fait, tu vois. C'est pas parce que t'es convaincu qu'il y a cette volonté, et puis que c'est de l'ego derrière, et tout. Tu vois, là, ça vient depuis ton cœur, quoi.
Ouais. Oui, et puis, je dis que j'étais pas convaincu, parce que j'aime pas trop le terme. Et surtout, je ne veux pas convaincre les autres. Après, que je sois convaincu, que je sois aligné, que je sois partie prenante à 300%, ok. Mais finalement, une nouvelle fois, convaincre les autres, c'est de nouveau aller vers l'extérieur puis le ramener vers nous. Là, c'est voilà. Seule façon d'être, c'est d'être bien avec ça et puis le reste fait son chemin en fait. Ça diffuse.
c'est beau, puis c'est juste, enfin, moi je vois aussi au quotidien, en fait j'ai vécu un peu les mêmes expériences que toi sur, dans d'autres contextes, et voilà, mais en fait j'ai voulu aussi, tu vois, vraiment sauver le monde.
Ah.
Et puis à un moment donné, et avec tous ces beaux principes, les mêmes que toi et tout, mais tout ça, ça venait pas depuis la bonne place en moi. Et en plus de ça, ça venait vraiment beaucoup du rationnel, même si c'est aussi passé par mon cœur et tout ça, mais ça n'avait pas eu le temps de descendre, si tu veux, dans ma matière à moi. Et puis donc du coup, bah ça s'est cassé la gueule, quoi, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, ben c'est au bon endroit, ça se fait autrement. Et puis j'ai pas envie de convaincre, en fait. Si tu vois ce que je disais tout ce matin à une personne qui m'interviewait, j'ai fait l'inverse. Je disais, ben en fait, celui qui comprend pas ce que je fais, eh ben j'ai pas envie de le convaincre. Il comprendra le jour où ça sera ok pour lui ou pour elle, quoi, tu vois. Et puis voilà, parce que chacun son chemin, quoi.
Ouais.
Oui, bien sûr, je peux expliquer et tout ça, voilà, mais convaincre, non, vendre à tout prix non plus, ça m'intéresse pas, quoi.
Ouais, totalement, totalement.
Et avant, tu parlais de rambarde, alors c'était quoi la rambarde? si tu oses le dire, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais...
Non, mais, enfin, oui, je veux bien, mais après, c'est une expression, c'est se rendre compte qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas été dans la bonne direction, parce que justement, le mental a pris le dessus, on avait une idée bien claire, on s'est forgé un objectif qui était blindé à 200%, et puis feu, quoi.
Ok, donc il t'a pas eu un événement déclencheur qui a fait que tu as tapé dans la rambarde et puis que tu as eu cette prise de conscience.
Bah, disons que c'est quand j'ai dû licencier des personnes et puis que ma société a eu des difficultés.
Ah ouais, c'est ça, ouais.
Parce que j'ai dû aller trop loin, voilà.
Oui, donc, et puis que la vie, ben voilà, c'était ton chemin de vie qui t'a montré que c'était pas le bon chemin, quoi, qu'il a fallu.
Oui.
Ouais. C'est joli que cette expression de rambarde. Oui, remettre dans la bonne direction, j'adore. T'as parlé aussi de ovalocratie, c'est juste?
Oui.
Raconte, c'est comment alors?
C'est de l'holacratie. Alors, disons que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins ou que chacun fait ses expériences. J'ai été suivre des cours à Paris sur l'holacratie, quelque chose vraiment des ateliers mis en situation, je veux dire plutôt.
Ouais.
Puis j'ai essayé de le refaire dans mon bureau et puis après j'ai dit ah mais ben, on est trop petit, on a trop peu de monde, donc faisons plus simple. Donc j'ai simplifié un peu. Et puis, je me suis enseigné sur la sociocratie, c'est un peu le niveau un peu plus, ouvert. Ouais. C'est avec d'autres systèmes qui font aussi travailler l'intelligence collective et qui donnent la parole à tout le monde et que
Ouais.
les solutions émergent de consensus, de choix. Hein. Donc, j'ai pris certains de ces éléments, ceux qui me plaisaient le plus, ceux qui me semblaient plus faciles à mettre en place. Et puis, aussi, il y avait des travails sur l'ego et tout ça. J'ai voulu mettre un nom à cette nouvelle façon de faire. Maintenant, ça m'est passé. Et resté quelques méthodologies.
Ouais.
Qui sont que vraiment que je retiens, puis qu'on développe. Par exemple, si on doit choisir un lieu pour faire Noël, sortie de bureau. Chacun va y mettre son idée. Puis là, on s'amuse à faire une votation sociocratique.
OK.
Donc, c'est tout un processus, on donne la parole à tout le monde, jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord sur une finalité qui n'est pas forcément celle que j'ai pensée au départ. C'est ça que j'adore. Et puis, en fait, il y a un but aussi pédagogique. C'est, voilà, il existe des autres façons de faire. Amusons-nous à le faire. Et puis, alors là, c'est assez cartésien. C'est prenez un post-it, notez la note que vous mettez, tournez ce post-it, enfin, vraiment comme ça se fait. Donc, on le fait de temps en temps, une fois par mois, mais on le fait pas tout le temps. Jusqu'au jour où un collaborateur va me demander de faire on peut le faire en sociocratie. Yeah, bingo. Yes, on y va, go. Donc, il y a ça, il y a début de séance, on fait un tour de table pour demander comment chacun se sent. Aussi, que je dis, ça semble être des évidences, mais on le fait pas à beaucoup d'endroits.
Non, je te jure que ça se fait pas à beaucoup d'endroits. Hein.
Il peut, si on le fait pas, Maintenant qu'on a pris l'habitude à le faire, si on ne le fait pas, il peut naître tellement d'ambiguïté, de non-compréhension, de jugement, enfin tout ça, alors que peut-être la personne, elle est de mauvaise humeur parce qu'elle a mal dormi. Le fait de le dire, il faut être capable de le dire. Ça demande du courage aussi.
Ouais.
Se dire que tous les autres, elles ne vont pas se sentir agressées, mis de côté, maltraité parce que la personne en face n'est pas de bonne humeur, ben non, c'est contre personne. C'est contre, voilà.
Ouais.
Et ça, moi, je trouve ça très important. Refais ce tour de table à la fin. Alors maintenant, souvent, c'est plutôt que de dire ce qu'on a passé, ce qu'on a fait le week-end, parce que c'est facile de dévier.
Oui.
Pour recadrer, dire voilà, non, mais là, ici, là, maintenant. Donc, c'est un exercice de tous les jours, en fait.
Ouais.
Réapprenons à vivre ensemble ou essayons petit à petit, sans contraindre les gens une nouvelle fois. Dès qu'il y a de la contrainte, ben on revient dans le convaincre. Contrainte, donc il faut y aller gentiment, admettre que c'est pas tout le temps parfait, puis lâcher. Puis...
Ouais.
Mais c'est passionnant. Alors,
et t'as trouvé que c'était facile en fait à faire, qu'il se livrait facilement ou que est-ce que il y a vraiment de l'écoute, tu vois, des autres, ou ils écoutent pas vraiment?
Excellente question. Alors peut-être pour en arriver là, pour l'humus de tout ça, j'ai aussi fait une formation de coach.
Voilà.
Qui aide. Mon objectif, c'était pas forcément d'être coach. J'en ai fait un petit peu tout ça, mais j'ai dit que c'était pas ça qui m'allumait. C'était plutôt d'avoir une stature de coach. Donc, justement,
Ouais.
écoute, poser des bonnes questions, se mettre au fait, tout ça. Travail aussi de tous les jours. Je pense que j'y arrive un petit peu. Mais je pense, c'est pour ça que je place ça là maintenant, parce que c'est important dans le contexte pour y arriver. C'est quand même un outil qui permet de déjà, simplement, en amenant des outils, une balle, plutôt que de se couper la parole, c'est chaque celui qui a la balle, il parle.
Ouais.
On l'a fait quelques fois, ça fait longtemps qu'on le fait plus, mais il y a personne qui coupe la parole à personne.
Oui, d'ici que l'habitude, elle soit prise, en fait.
C'est une habitude, exactement.
Ouais.
C'est de l'éducation. C'est, on réapprend
Ouais.
à couper, donc, à écouter. Ça nous oblige à écouter jusqu'à la fin. Et puis après, une fois qu'on a écouté, peut-être qu'on n'a plus envie de réagir. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Alors après, pour mon travail, moi qui suis le plus expertisé, suis le boss, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Des fois, je dois me limiter, ou bien je dis cette séance, je dis rien à moins qu'on m'adresse la parole. C'est extrêmement dur. J'y arrive. C'est très, très dur parce que j'ai chaque fois quelque chose à rajouter pour la bonne compréhension des projets quand on passe en revue des projets. Cette casquette d'expert, cette casquette de boss, cette casquette de coach,
Après, t'es un peu le garant aussi de la qualité de ce qui va être rendu ou construit au final, quoi. Donc, c'est ta propre responsabilité finalement qui est aussi engagée, quoi. Tu vois.
Oui.
T'es pas forcément coupable, mais t'es responsable, quoi.
Mais la responsabilité, c'est un sujet très intéressant parce que les collaborateurs puissent la prendre, cette responsabilité. Il faut que je puisse la lâcher, la donner. Il y a aussi un moyen de contrôler, enfin de poser les bonnes questions, de s'assurer que cette qualité qui est primordiale dans notre métier soit faite, mais sans devoir moi calculer. Enfin, il y a c'est vraiment un jeu, un équilibre, vraiment une alchimie à mettre en place.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que, enfin, moi, mon rêve maintenant, c'est de ne plus être indispensable. Et plus je le dis, moins je le suis. Donc, des fois, je dis un fou, je dis, mais bon sang, il n'y a pas un projet sans que je dois intervenir pour X, Y raison, alors que c'est tout l'inverse de ce que j'aimerais. Et puis, je me rends compte, c'est avec la responsabilité que j'ai. Il y a des choses que je lâche pas. Je me suis pris des décisions au début de cette année 2024, qui sera la meilleure année que j'ai jamais vécue.
Wow.
Comme chaque année. où j'ai vraiment décidé de nommer certains de mes collaborateurs à des postes avec des responsabilités plus importantes.
Ouais.
Et pas que nommer, c'est aussi faire tout un travail sur moi pour donner cette responsabilité autant à la personne que de l'expliquer à mes clients
Ouais.
qui m'adorent, qui me veulent moi et tout ça. Et puis, voilà.
Oui.
Et ça, c'est double exercice pour moi, le patron, un exercice de transmettre. Vraiment, c'est pas lâcher prise, quoique, si je veux pas être responsable, je dois le faire, mais c'est vraiment cette matière de responsabilité, de la traiter avec beaucoup de respect, je dirais, et de la transmettre totalement, partiellement, peu importe, mais vraiment de la transmettre, c'est de dire, voilà, je la donne ici, je la donne là, mais comme ça, comme ça, comme ça. Donc, et puis peut-être que le fait de devenir moins indispensable va montrer son bout du nez bientôt.
Je trouvais ta peut-être tu pourras reformuler ta phrase parce qu'elle est très je sais plus comment tu as dit, mais je veux plus être indispensable en fait, et en fait il y a le indispensable qui reste, tu vois, et on n'entend plus que ce mot. Donc si tu le reformules en utilisant plus ce mot-là, peut-être il va sortir de toi, tu vois ce que je veux dire.
C'est vrai qu'il est lourd, hein, celui-là.
Ouais,
Il est lourd.
Tu vois, parce que bah, tu sais, parce que tu as fait des formations de coach et tout ça, mais le cerveau, il ne comprend pas la négation, quoi. Donc, tu dis, je ne veux plus être indispensable. Ben, il retient, tu vois, je veux. Tu sais, c'est comme quand je ne sais pas si tu as des enfants, mais tu t'imagines, en fait, apprendre à un petit gamin, tu vois, à faire du vélo. Et en fait, au moment où tu le lâches, si tu es en train de te dire, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Eh ben, il tombe, quoi.
Bingo, ben bien sûr, voilà. Ça c'est réalisé.
Donc, en fait, peut-être tu peux reformuler, et puis en enlevant ce mot, on va pas le faire maintenant, hein, tu vois, mais ça me vient, et puis je te le glisse comme ça, parce que c'est vrai qu'il est fort, ce mot indispensable, quoi. Et il nous met beaucoup de pression aussi. Hein.
Oui, oui, oui. Ben, merci du cadeau. Je me réjouis de...
compris, tu me raconteras. Tu disais tout à l'heure, en fait, que, en fait, si j'ai bien compris, en fait, donc, il y a pas de hiérarchie, donc c'est horizontal, il y a beaucoup de collaboration. Comment ça se passe, ça, dans le quotidien, en fait? Est-ce qu'il y a c'est facile? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce que, c'est des pairs que tu as ensemble parce qu'il y a des complémentarités? Ça dépend des projets. Comment tu l'organises? Comment est-ce que vous l'organisez au quotidien et vous le vivez?
Alors, c'est horizontal. Par contre, il y a vraiment quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que c'est pas avec la même responsabilité.
Mm-hmm.
Donc, c'est une horizontalité avec un joli horizon. C'est comme un horizon, les montagnes, plus hautes que d'autres. Il y a des vallées, tout ça, c'est ça. Et puis, finalement, dans cette horizontalité, c'est chaque projet qu'on a, donc qu'on développe, qu'on conçoit, qu'on réalise, est différent. Donc, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a chaque fois des acteurs différents, il y a un scénario différent, et puis on ne connaît pas forcément la fin ou comment ça va se terminer. Donc, on décide au départ en fonction des compétences de chacun, des disponibilités, des ressources, du lieu où ça se passe. Enfin, il y a tous ces éléments on fait pas des tableurs, c'est intuitivement, tac, on dit, voilà, on met en place, et puis après, le projet se développe, comme ça. Donc, chaque
Donc,
projet
en
est
fait,
différent.
Vas-y, excuse.
Chaque projet est différent, et puis, évolue différemment. Donc, les pairs, oui, il y a des gens qui sont bien pour faire des prestations ensemble, on sait que ça match et tout, mais il y a rien qui est figé, en fait.
Donc, en fait, encore une fois, c'est très organique et naturel. Donc, si je comprends bien, en fait, quand vous avez de nouveaux projets qui arrivent, que ce soit par toi ou par un de tes collaborateurs, je ne sais pas si tu es collaborateur, tu vois, mais par un des ovaliens, en fait, le projet arrive comme ça sur la table et c'est discuté, en fait, voilà le projet, qui le sent, en fait, qui a les compétences, et puis ça, c'est discuté tous ensemble, en fait, et vous créez l'équipe comme ça?
Ouais, ou bien ça se met en place de façon assez naturelle.
Okay.
On met pas sur le marché, puis on choisit qui, quoi, comment. En général, on commence à y réfléchir quand on fait l'offre d'honoraires.
Ouais.
Donc là, le projet n'est pas encore mis sur la table
ouais.
de notre bureau. Il est un peu en base clos. Disons que sur 6 personnes, ça touche que 3 personnes.
OK. Ouais.
Donc, moitié du bureau, hein, quand même. Donc, et après, les choses se mettent en place. Et j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Puis effectivement, ça me fait prendre conscience que ça se met en place naturellement avec les aides, ben, patrons de l'organisation, en fait.
Et tout à l'heure, tu parlais des ressources. Je pensais aussi les ressources temps, proximité, peut-être avec le lieu de vie en fait de certains ovaliens. J'aime bien en fait utiliser ce terme. Et est-ce qu'à un moment donné, tu vois, eux, ton équipe vont dire. On peut pas, il y a trop, je peux le prendre, je me sens pas à l'aise. Est-ce que ça, c'est libre, c'est spontané, ça vient naturel? Est-ce que ça se fait aussi de manière naturelle?
Pas chez tout le monde. Disons que c'est encore quelque chose qu'on se permet, je dis on, que nous, les membres de l'équipe, on se permet pas forcément. Moi, je me permets, parce que je me permets tout, mais par contre, pas tout le monde. Donc, il y a une écoute aussi. Une écoute, des fois, on y va un bout, parce qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'on a plein de projets en même temps. Il y a ceux qui démarrent tout de suite, il y a des fois, ça fait entrechoque, il y a beaucoup de projets en même temps. Donc, c'est ce qu'on travaille, ce que j'attends de chacun qui vise au début de semaine, quand on se voit tous et qu'on se fait notre coordination pour la semaine, c'est à ce moment-là que ça doit sortir. Qu'il y a un malaise, une tension, un stress, ou passer de travail, ça peut arriver, ou un risque de passer de travail durant la semaine, c'est ce qui se dit. Ouais, j'attache une importance à ce une grande importance à ça, c'est qu'on puisse dire, ouais, j'aurais passé le travail en fin de semaine. Plutôt que dire, ah non, je vais pas le dire parce que sinon je vais me ramasser ce gros projet derrière. Et je trouve que c'est cette permission, ce droit est pris. C'est-à-dire que on a cette liberté, chacun a cette liberté. C'est comme dire comment ça va en début de séance, dire vraiment si ça va. Comme oui, ça va et toi, ou non, là je me sens bien, je me sens moins bien. Ça en va de la responsabilité personnelle de chacun, je pense. On parlait de responsabilité, ben, à ce
Bah oui,
niveau.
parce que je pense à un moment donné, bah c'est bien en fait que tu redonnes, enfin, ou que ils puissent prendre conscience d'être responsables d'eux-mêmes aussi, parce que je trouve qu'on le perd à un moment donné, ça. On l'a perdu quelque part, en fait, notre responsabilité personnelle d'employé. Tu vois, de dire ce qui va, de dire ce qui va pas, de dire comment on se sent, de dire si on peut bien travailler, de dire ce qu'il nous faut pour bien travailler, et puis de dire, en fait, si ça va pas, enfin. Je trouve qu'il y a trop de peur, en fait, peu importe le contexte de l'entreprise, de dire, en fait, si je le dis, je vais me faire virer, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou voilà, tu vois, tout de suite, en fait, il y a des problèmes. Alors que probablement, le patron, il a besoin de savoir ça aussi pour pouvoir faire en sorte que ça s'améliore et pouvoir bien diriger son entreprise.
Oui, diriger, décider,
Oui, alors, ouais,
aider
diriger.
à organiser. Mais oui, c'est ça.
Exactement, gérer et tout ça. Ouais, planifier et tout, ouais. Ça me fait envie, j'aimerais bien venir travailler chez toi. J'adore. Ah non, je veux rester ma liberté. C'est quoi en fait en ce moment vos enjeux en fait ou toi personnellement ou au niveau de tu vois de Val et
Enjeu actuel, pas pour le futur. Ben, enjeu
Ouais, alors,
actuel.
attends, actuel pour le futur, parce que...
C'est pas actuel pour le passé. Allons-y, actuel pour le futur. Ben, je pense qu'il y a, ça fait quelques années qu'on travaille sur le développement durable, prise de responsabilité à nouveau pour construire avec les ressources en place. Nous essayons de faire du recyclage, du béton recyclé, utilisant plus de bois. Donc ça, on y est, ça a de la peine à prendre. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts, d'études complémentaires finalement, qui sont difficilement valorisables, malheureusement. Donc on le fait plus pour notre fibre et puis pour avancer, puis pour, ouais, pour avancer nos connaissances, puis pour essayer de faire quelque chose pour le futur. Maintenant, on dira dans le court terme, c'est vraiment trouver des solutions pour nous sortir de cette cette espèce de marée qui est à la course au prix le moins cher.
Ouais. Et ouais.
Les honoraires le moins cher. Nous, on aimerait faire de la qualité, amener de la valeur ajoutée, amener tout ce qu'il y a entre la prestation, le conseil, tout cet esprit qu'on essaye de mettre dans tout ce qu'on fait, que ça soit également valorisé. C'est un peu notre solution par différents biais, en développant des projets innovants. Donc, on a un certain nombre. Donc, voilà.
Quel type de projet vous avez, pour que les gens comprennent bien ce que c'est génie civil, tu vois, ingénieur civil, ingénieur génie civil.
Donc, ingénieur génie civil, c'est un généraliste comme le médecin de famille quelque part. Donc, c'est un ingénieur qui va s'occuper, il a deux domaines principaux, c'est le génie civil, donc ce qui comporte tout ce qui est route, canalisation, et l'autre partie qui n'est pas dans le titre, c'est tout ce qui est structure porteuse, bâtiment, que ce soit du bâtiment en béton, des halles métalliques, des structures en bois comme des charpentes. On peut aller un peu plus loin, ça peut aussi prendre en compte les barrages, les ouvrages d'art comme des ponts.
Ouais.
On peut passer au-dessus des routes, au-dessus d'obstacles, au-dessus des vallées. Donc, c'est assez vaste. Et puis, dans les canalisations qui sont dans le terrain, donc il y a tout ce qui est gestion de l'eau, récupération d'eau, traitement de l'eau, réalisation de steppes. Et qui donne quelque chose d'assez important. Donc, nous, notre bureau, on est spécialisé dans la structure porteuse. C'est principalement les bâtiments.
Ouais.
On utilise maintenant de plus en plus les compétences pour lesquelles on n'est pas des spécialistes, c'est-à-dire pour le génie civil. Donc, on a des partenaires. Le OVAL est partenaire. C'est pas des associés, c'est plus une vue de l'esprit, un concept. Mon rêve, c'était vraiment de rester une petite équipe et de travailler avec d'autres bureaux d'ingénieurs qui ont soit d'autres compétences complémentaires, soit géographiquement qui sont plus loin, avec lesquels on peut travailler, et puis aussi d'élargir notre champ d'action, notre champ de compétences et tout ça. Concrètement, l'ingénieur n'aime pas partager, il a de la peine. Oh, il y a quelque chose d'historique, il y a aussi quelque chose, c'est à cause de la responsabilité qui fait que. Et puis malheureusement, beaucoup aiment mieux avoir l'entier du mandat plutôt que de partager en deux.
Mais ça se fait. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est historique, en fait. On ne veut pas partager, on veut garder pour soi. Enfin.
C'est historique. Ça fait partie de ce formatage. Ces formatages qu'on essaye petit à petit, ou ces croyances qu'on essaye de travailler quand on est sur le chemin.
J'adore.
Et puis, on voit que ça commence à se faire. On a un excellent partenaire qui est géomètre, qui fait du génie civil, de la route et des canalisations à Aubonne. Sur la côte lémanique, on vient de décrocher un autre plus gros projet à La Chaux-de-Fonds, pour ce Châtel-Saint-Denis, donc c'est une très grande distance. Donc, notre client nous a présenté notre concurrent qui est d'accord de travailler avec nous, donc en sous-traitance, comme partenaire régional. C'est juste génial, on a l'entier du mandat, puis on peut donner du travail à ceux qui à qui on a demandé aussi une offre qui est de la région. Donc c'est comme si à un certain moment les planètes s'alignent, les choses se mettent en place, et puis ça c'est génial. Moi, ça m'allume complètement parce que il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a juste à gratter puis trouver des bonnes personnes pour qu'on puisse développer des projets, mais aussi des aventures quelque part ensemble pour apprendre, développer, concrétiser et finalement réaliser un ouvrage qui va servir pour quelqu'un, qui va être le résultat d'un besoin, qui va servir à quelque chose.
Et tu sais, et qui va être là pour des dizaines d'années, centaines d'années. Qui, tu vois, enfin. Moi, j'ai discuté de ça avec un entrepreneur dans le bâtiment il y a quelque temps. Puis je lui disais, mais on n'a pas suffisamment. Moi, je viens de famille du bâtiment, donc voilà. Et je disais, on a plus du tout conscience, en fait, aujourd'hui. Mais je pense même que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment n'a pas conscience, en fait, que le matériau qu'il va utiliser. Tu vois, par exemple, je te dis, je prends une pierre. un pavé qui a été posé, je sais pas, il y a 150 ans au centre-ville de Lausanne, pour donner un exemple, ou n'importe quelle autre ville, bah, ce pavé, c'est une pierre qui a été extraite, qui a été transportée, qui a été travaillée, qui a été façonnée, qui a été posée, consolidée, enfin, aplatie, consolidée. Il y a un chemin qui a été dessiné par quelqu'un, enfin, tu vois. Et puis, 150 ans plus tard, on marche là-dessus tous les jours. Il y a des centaines de milliers de personnes qui marchent là-dessus tous les jours. C'est toujours là. Ça dure. Et on n'a aucune conscience de ça. On n'a aucune conscience qu'il y a quelqu'un, enfin, il y a même des dizaines de personnes qui ont travaillé pour que je puisse poser mes pieds tous les jours sur un terrain qui est sec, confortable à marcher, etc., quoi. Ouais. Et la même chose pour les ponts, pour les bâtiments, pour, voilà. Enfin, je veux dire, l'eau, elle n'est pas arrivée comme par magie dans mon robinet, quoi. Tu vois, enfin. Et on n'a plus conscience de ça, en fait.
Et je pense que le fait de prendre 2 secondes pour y mettre de la conscience, ça change tout. Ce pavé sur lequel tu as marché, il commence à avoir une âme. Enfin,
non, mais écoute, tu dis ça, j'ai la chair de poule de partout. Donc oui, il commence à avoir une âme, quoi.
Génial. ou un esprit, donc ouais. Mais effectivement, ouais. Et puis la vie devient, elle change de teinte, elle devient juste joyeuse, vivante, colorée. Génial. Et il n'y a pas besoin de faire 100 kilomètres. En faisant 5 mètres, on arrive à vivre des émotions, à vivre une aventure de fou.
Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, ce qu'on oublie aussi, en fait, c'est qu'il y a plein de manières différentes de collaborer. Et là, tu es en train d'en expérimenter plein. Mais tout ça, c'est un écosystème, en fait. Et qui, en fonction de ce que tu as besoin, va s'adapter. Et puis développer lui-même ce qu'il a besoin, en fait, pour durer. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Pour continuer à vivre, évoluer et tout.
Et je trouve génial parce que ça me fait sourire parce que assez souvent, j'adore partir comme ça dans ce type de discussion de prendre un peu d'auteur si on veut, hein. Et puis mes collaborateurs, les ovaliens, la plupart, ils disent, ah, c'est bon, mais viens sur Terre, nous on veut du concret.
Ouais,
c'est eux qui me ramènent, c'est génial parce que finalement et puis le concret, c'est là-dedans qu'on passe à l'action, qu'on fait du concret. Donc, eux-mêmes me ramènent et ils connaissent mes
envies. Probablement qu'ils doivent aimer aussi, parce que sinon, on ne serait pas là, tu vois.
Oui.
D'ailleurs, qu'est-ce qui leur plaît à eux de travailler chez Oval? Pourquoi ils sont là? Tu vois, est-ce que c'est juste pour faire le boulot de calculation, tu vois, ou le projet, ou c'est plus, quoi?
Je pense qu'il y a autre chose, il faudrait leur poser la question. Non, mais je pense que ce qu'on est en train de parler là, ça se sent quelque chose qui amène ce plus, qui fait qu'on est motivé à se lever le matin, qui nous met du baume au cœur pour travailler la journée, puis d'aller travailler sans devoir aller travailler.
C'est ça.
Pour moi, c'est ça qui fait la différence, clairement.
Ouais. C'est beau. Je t'enverrai, j'ai un épisode de podcast en fait qui raconte la journée de tu vois comment elle devrait être la journée de travail parfaite ou idéale, quoi. Mais c'est exactement ce que tu viens de raconter, quoi. Tu vois, il se lève le matin en étant hyper heureux et tout ça. Puis quand il rentre le soir, je raconte un homme, tu vois, mais il rentre le soir, il a encore la méga patate, quoi. Tu vois, il est pas cuit par sa journée. Hein. Et donc il a encore du temps pour ses gosses, pour sa vie de famille, pour faire du sport. Tu vois, il est dispo, quoi. Il est pas au bout de sa vie, quoi. C'est comme ça que ça devrait être, en fait. Après, de tout temps, on a été fatigué par le travail, tu vois. Enfin, voilà.
Oui, et puis chacun doit faire l'expérience, en fait. Parce que si c'était comme ça devrait être.
Il n'y aurait plus d'expérience à faire.
C'est ça. Je me dis, mais ce qui fait que c'est bon, que ça nous fait du bien, c'est peut-être qu'on a connu aussi autre chose et on sait ce que c'est de rentrer fatigué. Et il y a des jours, même dans un bon environnement, il y a des jours où ça passe moins bien.
Et puis, tu sais, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait de la pluie.
Donc,
tu passes pas par des moments qui sont difficiles ou plus tristes ou plus challengeants, voilà, tu peux pas apprécier quand c'est cool, quoi.
Clairement. clairement. Oui.
Puis c'est la vie, parce que bon.
C'est ça, je crois.
Eric, je regarde juste si j'avais d'autres choses que j'avais envie de te demander. Parce que je ne veux pas te prendre trop de temps, je vois que ça file. Ouais, peut-être. Toi, tu as envie de voilà, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, tu as envie de sauver le monde. Aujourd'hui, ben, tu vois, tu as du recul par rapport à ça, vous avez mis en pratique plein de choses. Comment tu aurais envie de poursuivre, en fait, ton chemin, ta destination ou ta contribution dans ce monde-là, quoi? Sans volonté, sans enjeu, sans pression, sans exigence. Hein.
C'est ça. Voilà, c'est bien cadré en tout cas. Non, mais j'ai envie de poursuivre comme je poursuis maintenant, enfin, comme ce qui se passe maintenant, sans enjeu, sans exigence, sans volonté. C'est juste garder cette ouverture. Voilà, garder cette ouverture par rapport à ce qui arrive, par rapport à... J'adore l'ouverture pour... C'est pas pour être prêt pour ce qui arrive, c'est pour être surpris pour ce qu'on s'y attendait pas. C'est-à-dire, on reste ouvert, mais on reste ouvert encore plus pour que tout ce qui est en dehors de l'ouverture puisse arriver, finalement. Parce que c'est ça qui est intéressant.
C'est-à-dire, s'attendre à encore mieux?
De toute
même
façon.
Même pas s'attendre, en fait.
Ouais,
se
oui.
permettre d'être surpris.
Permettre que ça arrive, en fait. Comme tu parlais tout à l'heure du petit garçon qui est à vélo, puis tu sens qu'il va tomber, ça va arriver, il va tomber, mais de se permettre de se dire, voilà, il est à vélo, il va réussir à rouler sans les roulettes, sans qu'il le sache, de tout ça. Même là, il y a de l'attention et de la volonté, mais c'est assez subtil, c'est très difficile pour moi de mettre des mots. Mais je pense, je vois l'ouverture comme ça. Mais c'est en fait l'ouverture comme ça, totale, quoi.
Ouais. Alors, pour ceux qui écoutent et puis qui ne regardent pas la vidéo, Eric, il montrait avec ses mains une ouverture étroite et puis tout d'un coup, il a étendu les bras à 180 degrés grand ouvert en disant je la vois en fait très, très, très large, en fait, l'ouverture, quoi.
Et pour les pragmatiques, je suis passé d'une ouverture à 45 degrés à une ouverture à 180.
Ouais.
Ou pas dire à 360.
C'était ce que je voulais dire, parce que je pense. Et toi, en fait, donc tu disais tout à l'heure, ouais, tu t'es formé comme coach parce que en fait, tu avais besoin d'avancer, mais tu t'es fait coacher aussi, ou enfin, tu avais besoin d'aller travailler sur toi pour pouvoir avoir cette posture-là à l'intérieur de ton entreprise.
Je pense que l'un va pas sans l'autre. C'est toute personne qui travaille pour devenir coach, si elle n'a pas fait un travail sur elle-même,
on est sûr.
Ouais. Ça donnera certains styles de coach. Maintenant, ça fait bien plusieurs dizaines d'années que je travaille sur moi.
Ouais.
Étant assez curieux, assez ouvert, j'ai tendance à essayer beaucoup de choses, peut-être trop. Donc, je me suis calmé un petit peu. Oui, je me suis fait coacher. Je me fais toujours coacher.
Ouais.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, les premières fois à travailler sur toi? C'est parce que tu te posais des questions, puis que du coup, tu t'es mis en chemin, ou il y a eu des événements ou...
Alors, déjà, c'est mon environnement. J'ai la chance de connaître quelqu'un qui travaillait déjà sur elle. Et puis, par curiosité, j'ai mis le pied dans ce monde-là. Et à partir de là, ça se déroule, en fait.
Ouais.
Donc, je pense qu'il est dans son environnement, si on connaît pas ça, quelqu'un dit, ouais, va te faire coacher, ça fait, je peux comprendre que ça peut faire peur. Oui, c'est l'inconnu.
Ouais.
Et puis, il suffit aussi de connaître quelqu'un qui, finalement, soit par son rayonnement, soit par son expérience, ça, qui aide la personne à faire des choix, puis aller vers son développement à elle.
Ouais.
Développement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vers sa recherche, en fait.
Je crois bien que c'est... Tu parlais de... On a parlé de BNI en dehors de... Avant que je commence à enregistrer, Hugues Steiner, je crois qu'il m'a parlé de dépouillement personnel, je crois, et pas de développement personnel.
Ah, c'est bien ça. Oui, alors voilà. Ouais. Absolument. Finalement, c'est ça, c'est on se déconstruit, on enlève des couches, on enlève du formatage, on fait des prises de conscience.
Ouais.
Ces prises de conscience, elles sont possibles grâce à des bonnes questions, enfin, un bon coach
Oui,
ou des
ou
événements qui.
à la capacité, en fait, face à ce qui vient dans ta vie tous les jours, de pouvoir avoir la légère prise de recul ou tu sais, le petit instant de pause où moi je respire, mais après, je sais pas, chacun a peut-être son truc, quoi. Et ce petit temps-là, en fait, il permet d'éclairer, en fait, un
Oui.
petit peu la situation.
Ce haha moment.
Ouais.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Donc chacun à son niveau, selon son timing, selon son environnement, selon son vie. Et puis voilà.
Merci pour tous ces partages.
Merci pour cette écoute et ces questions pertinentes.
Est-ce que avant qu'on termine, tu as envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé et puis qui te tient à cœur de partager?
Là, comme ça, ce qui me vient, je pense beaucoup aux jeunes. Enfin, j'ai des enfants qui sont en train de se chercher. Et après, ils disent, ah, mais moi, je sais pas quoi faire, parce que
Ouais,
j'ai pas
ouais.
trouvé ma voie, mais j'ai 50 ans, je pense que je l'ai encore pas trouvé. Je suis sur une voie, mais enfin, bref, il faut peut-être, je pense que ça vaut la peine de prendre sur soi, et puis, quelle que soit la situation, de faire avec la situation dans laquelle on est. C'est pour moi, de travailler, si on prend dans le sens noble du terme, le travail pour avoir une certaine maîtrise, pour devenir bon dans ce qu'on fait, il faut passer, j'avais entendu 10 000 heures. Donc, il faut travailler, peut-être mettre un peu de sueur. Enfin, je suis de l'ancienne école. Donc, pour moi, de travailler, c'est de mettre le travail sur l'établi et puis de commencer à passer, travailler la matière, en fait, et mettre un peu de sueur parce qu'il n'y a rien qui arrive selon ma croyance actuelle sans travail,
Sans action et sans mouvement.
sans action et sans mouvement. Voilà, c'est très bien dit. Ouais. Voilà.
Oui.
Donc, action, mouvement, ça donne des bijoux. Et le repos est une action aussi.
Ah, j'aime bien, je fais rien en fait, je me repose. Non, je fais quelque chose, je me repose. C'est beau ça. C'est intéressant pour les enfants.
Oui.
Ouais.
Qui puissent s'ennuyer un peu, rien
Ouais.
faire et aller de l'avant. Ils ont des jolis challenges à venir aussi.
Ouais, c'est difficile de reparler du monde actuel de manière positive, en fait. Et moi, ça me prend beaucoup d'énergie, en fait, parce que si je fais tout ça, je pense, on en a parlé un peu, on a conscience, en fait, de ce qui peut arriver si on continue comme ça. Donc, en fait, je pense que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour justement éviter ça. Donc, de se concentrer vraiment sur toutes ces actions positives qu'on peut faire. Et ça ne veut pas dire occulter, mais transmettre cette conscience-là à nos enfants qu'il peut se passer ça, mais qu'il faut quand même rester positif et qu'il y a de toute façon un avenir pour eux, quoi.
Et ils vont le faire. Je pense que vraiment ils ont tout en main pour construire la suite.
Mais ils ont tout en eux. Tout est en eux, peu importe ce qu'il y a, qu'ils puissent avoir les ressources, quoi, pour accéder à ça en eux. Ouais.
Donc espoir et ouais, la vie vaut la peine.
Mais clairement, sinon, je préférerais. Bon, bref, on va s'arrêter là. Oh. Espoir, la vie vaut la peine, ça le fait, quoi, pour terminer.
Action et mouvement, j'aime bien.
Action et mouvement, ouais. Je mettrais encore même derrière intention ou inspiration, tu vois, alors ce moment, en fait, de temps de réflexion, de pause et de cette énergie qui vient, puis après qui va te donner le mouvement, en fait. Puis là, tu peux avoir du soutien de ailleurs que juste de tes bras.
Ah, c'est excellent.
C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré, inspiré. Transforme cette inspiration en action. que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme. Rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch/newsletter.